La marche du monde, Valérie Nivelon.
À écouter ou à réécouter, je vous propose une sélection de nos meilleures émissions jusqu'au début du mois de septembre.
Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. Gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui lutte. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara tombait sous les balles d'un commando dont les commanditaires pensaient le réduire définitivement au silence. Mais 30 ans plus tard, la voix du jeune capitaine n'a jamais été aussi présente.
Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. Par conséquent, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez ces ennemis du peuple, oui ou non? Est-ce que vous les aimez? Alors il faut les combattre. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat.
Je crois qu'au moment où il a pris le pouvoir, Thomas Sankara parlait contre quelque chose. Et contre l'impérialisme, contre ceux qui volent le peuple. Et il parlait au nom du peuple et on sentait quelqu'un qui était révolté, qui comptait mettre mal à l'aise ceux qui volent, qui pillent, qui sont assis, qui étouffent leur peuple, qui veulent décider pour la majorité. Donc, si je me rappelle bien, je sentais quelqu'un qui était révolté.
Avec notre grand témoin, Joséphine Ouédraogo, nous redécouvrons les discours de Thomas Sankara, orateur hors norme et incarnation de la seconde indépendance de la Haute-Volta, qu'il rebaptise Burkina Faso. Le pays des hommes intègres est alors en pleine crise de la dette. Les plans d'ajustement structurel accroissent la dépendance alimentaire et la pauvreté. Thomas Sankara annonce alors une société nouvelle, débarrassée de l'injustice sociale et de la domination impérialiste.
Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte.
Jeune capitaine fougueux, inspiré par la guerre d'indépendance des Vietnamiens ou encore le combat de Che Guevara en Amérique latine, Thomas Sankara prend le pouvoir par la force le 4 août 1983 à la suite d'une succession de coups d'État.
En réalité, pour être franche, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que la prise de pouvoir en août 83 par Thomas Sankara, c'était le troisième coup d'État militaire en moins de 5 ans. Mais en écoutant les premiers discours, il condamnait bien sûr l'impérialisme, le néocolonialisme, il condamnait les dirigeants africains qui opprimaient leur peuple, qui pillaient, qui étaient complices de l'Occident et tout ça. Et là, je trouvais que c'était normal qu'il fasse ces condamnations. Mais en même temps, mes proches pouvaient s'identifier à tous ceux qui étaient condamnés par ce discours. La classe petite bourgeoise était mal à l'aise. Les fonctionnaires, les directeurs de service, ils disaient « mais c'est un fou, ah celui-là c'est un fou ». Et je ne me sentais pas condamnée, mais je sentais le malaise qu'il y avait autour et donc ça créait une certaine anxiété. Mais le milieu dans lequel je pouvais m'exprimer moi-même librement, c'est-à-dire j'avais quelques amis, quand on écoutait, on se disait « Ah, c'est vraiment intéressant, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Parce que la classe petite bourgeoise, les dirigeants, ceux qui avaient quelque chose à se reprocher, avaient peur qu'il y ait de la revanche, qu'il y ait des règlements de compte.
Joséphine Ouédraogo ne sait pas encore qu'elle deviendra un an plus tard ministre de l'essor familial et de la solidarité au service de la Révolution. Mais qui est-elle en 1983 ? Fille de diplomate, c'est à Paris que Joséphine a obtenu son baccalauréat, son diplôme d'assistante sociale, puis sa licence de sociologie. Impatiente de rentrer au pays, elle est embauchée par un bureau d'études voltaïques dès 1974 pour des projets d'aménagement ruraux et pour la promotion des femmes. En 10 années de terrain, elle prend la mesure de la situation économique et sociale des villageois.
En 1983, lorsque Thomas Sankara prenait le pouvoir, j'avais exactement le même âge que lui, 33 ans. J'étais sociologue et j'ai été passionnée parce que j'étais contente d'être plongée dans les réalités de mon pays. Je dormais dans les villages, j'ai appris ainsi à connaître le monde paysan. J'ai très vite compris que tous ces projets, tous ces financements, tout ce qu'on injectait dans le milieu rural, en réalité, c'était décidé par ceux qui les finançaient. C'était fait par d'autres et les paysans n'étaient pas impliqués. On disait participer, mais en réalité, ils étaient toujours des bénéficiaires, entre guillemets. On parlait de bénéficiaires tout le temps, etc. Les femmes continuaient et continuent jusqu'à aujourd'hui d'aller faire des kilomètres pour porter de l'eau. Elles cherchent toujours du bois. Elles sont obligées de passer du temps à moudre le grain, même si ce sont des moulins, à travailler aussi dans les champs, à faire de l'artisanat, etc., etc. Donc ma conscience politique sur l'inadaptation des politiques de développement agricole, des politiques de développement rural, des politiques de promotion des femmes, ma conscience politique a été aiguisée par ce travail que je faisais. J'ai commencé à prendre conscience que pour que nous puissions gagner notre part de ce système mondial, il fallait que nous puissions nous ressaisir. Et pour les femmes, bien sûr, pouvoir également se ressaisir, pouvoir s'associer et défendre nos propres intérêts.
L'homme ne peut se libérer que si la femme est libre. C'est la conviction personnelle de Thomas Sankara et c'est une priorité du CNR, le Conseil National de la Révolution. Afin de marquer les esprits, le gouvernement est renouvelé pour intégrer 5 femmes ministres du jamais vu.
Le président Sankara a fait appel à moi en août 84, c'est-à-dire un an après le début de la révolution, parce qu'il comptait faire un remaniement ministériel. J'étais réellement surprise. Il me dit, Joséphine, écoute, la révolution a besoin de toi. Je dis, ah bon? Il dit oui, tu sais, je te suis, hein, je sais ce que tu fais, tu travailles sur le terrain, tu es tout le temps avec les paysans, avec les femmes, tu fais des choses concrètes et la révolution a besoin de quelqu'un comme toi. Je dis, ah bon, oui, je veux que tu entres dans mon prochain gouvernement. C'est une grande marque de confiance, c'est une grande responsabilité, ça voulait dire aussi assumer ensemble. Bon ou mauvais, il faut assumer ensemble.
L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque, cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer.
J'ai cherché à voir qu'est-ce que j'avais de commun avec tout ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y avait en moi qui pouvait assumer loyalement et contribuer à ce grand chantier national? Parce que c'était quand même un immense chantier. Et je dis, bon, à la guerre comme à la guerre, si tu t'engages, c'est vraiment pour contribuer à faire du changement pour les femmes, pour les paysans, pour la société. Quand le gouvernement s'est réuni pour la première fois en Conseil des ministres sous la présidence du président Sankara, après les présentations des uns et des autres, il nous a parlé pour nous dire exactement ce qu'il attendait de nous. Déjà, à ce moment-là, collectivement, je me souviens très bien ce qu'il a dit. Il a dit, vous les ministres, vous n'êtes pas des dignitaires, vous êtes des serviteurs du peuple. Nous devons travailler ensemble pour changer qualitativement les conditions de vie des populations. Je ne peux pas oublier cette phrase qu'il a dite à ce premier conseil des ministres. Il a dit, tant qu'il y aura une femme qui, le matin à 4 heures, pédale sur sa bicyclette pour aller en brousse chercher des légumes ou du bois ou des choses auprès des producteurs villageois. Tant qu'il y aura ces femmes qui pédalent 10, 15, 20 kilomètres et qui reviennent avec des grosses charges derrière leur bicycle pour vendre dans les marchés et à vil prix, alors c'est qu'on n'aura pas accompli notre mission. Il dit garder cette image, c'est pour changer les conditions de vie de ces femmes et également des paysans, de tous ceux qui souffrent dans cette société. Alors, c'était clair, hein? Il a dit la révolution est là pour changer la vie des femmes. La révolution est là pour changer la vie du peuple burkinabé.
Je sais que des maris ont commencé à dénigrer ces mesures-là. Je sais que des maris ont commencé à dire que la révolution c'est dehors mais pas chez eux. Eh bien, je tiens à leur dire que la révolution a commencé à la place publique, à la place de la révolution. Mais la révolution entrera non seulement dans les bureaux, dans les ateliers, mais la révolution entrera dans les foyers et jusqu'au lit.
Président du Conseil national de la Révolution, Thomas Sankara s'attaque à tout ce qu'il estime être un frein au développement. Radical et frontal, il s'appuie sur les théories marxistes et cible la famille, le socle de la société traditionnelle. La ministre de l'essor familial et de la solidarité, Joséphine Ouédraogo, reçoit alors sa feuille de route.
Thomas Sankara dit que c'est dans les familles que se forgent et se transmettent tous les comportements machistes, féodaux, sexistes, etc. Le système d'exclusion sociale commence par la famille. C'est parce que la famille n'a plus son rôle d'encadrement et de responsabilisation des femmes et des jeunes filles que des jeunes filles aussi qui ne vont pas à l'école s'en vont, viennent en ville, cherchent du travail, n'en trouvent pas, se prostituent. Et donc, il a dit, c'est là que je veux qu'on travaille et je peux dire que les actions phares maintenant qu'on a faites dans cette logique-là, c'était les emplois pour les femmes et les filles. Créer toutes circonstances, toute opportunité pour que les femmes aient du travail, que les jeunes filles aient du travail. C'est là qu'on a vu les premières femmes taxi-man, je dirais taxi-woman. On a vu des jeunes filles pompistes, on a vu des femmes dans la construction des bâtiments. Il fallait que les femmes gagnent leur vie, travaillent, etc. Et il a dit, il faut qu'on fasse des garderies, parce que pour que les femmes travaillent à l'aise, il faut qu'elles puissent avoir la sécurité pour leurs enfants. Vous savez, il y avait quelques garderies à Ouagadougou, privées, qui coûtaient les yeux de la tête. Bon, la garderie n'était plus l'apanage des femmes d'une classe privilégiée, c'était pour tout le monde. Une de mes filles était dans une des garderies populaires.
Les actions phares se multiplient. La révolution préconise l'abolition du mariage forcé, de la dot obligatoire. La révolution recommande la monogamie et le droit à la succession pour les veuves, ainsi qu'une éducation sexuelle de masse afin de planifier les naissances.
Quand j'ai organisé des débats en milieu rural avec des femmes rurales sur le code de la famille, j'ai amené la question de la polygamie dans le débat. J'ai dit, nous voulons savoir, est-ce que ça vous arrange, vous aimeriez qu'on décide, qu'on impose la monogamie, parce que c'est, pour nous, c'est le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Et puis, il y en a une qui a dit, madame, si je n'avais pas de coépouse, je n'aurais pas pu être là en train de vous écouter, parce que j'aurais été tellement prise par toutes les tâches à faire. Il faut être deux, il faut être trois pour pouvoir assumer tout ce qu'il y a à faire dans une concession. Je ne peux pas l'oublier. Il a dit, si je n'avais pas de coépouse, je ne serais pas là. Alors, c'était la réalité, mais en même temps, j'ai dit, mais la solution à la polygamie, c'est la transformation des conditions de travail des femmes dans les villages. La solution à la polygamie, c'est faire en sorte que les femmes ne soient plus obligées d'aller chercher du bois très loin, qu'elles ne soient plus obligées de faire la cuisine dans des conditions difficiles, qu'elles ne soient pas obligées de passer des heures à aller chercher de l'eau. Il fallait résoudre le problème de l'approvisionnement en eau, l'approvisionnement en énergie, l'approvisionnement, c'est-à-dire des nouvelles technologies pour certaines transformations alimentaires, etc. Tant qu'on ne va pas résoudre ça, il y a des femmes qui diront en milieu rural, « Oui, je veux une coépouse. »
Nous avons été éduqués dans une société où l'homme est supérieur à la femme, c'est ce qu'on nous a dit dès notre enfance. Notre mère, nos mamans nous ont éduqués comme ça. Bon, alors il y a tout un travail qui est très difficile Nous essayons de faire comprendre aux femmes aussi qu'il faut respecter les hommes pour que la transformation se fasse en douceur. Il ne faut pas les choquer. Ça demande beaucoup de tact, hein, de part et d'autre. Ce n'est pas aisé. Et je dois dire que nous voyons parfois des succès, mais nous voyons parfois des échecs très lamentables. Il faut insister, insister, insister. Et ce n'est pas aisé du tout.
En termes de charisme et de l'implication du président Sankara pour sensibiliser, c'est le fait même qu'il en parlait lui-même. Vous savez, avoir un homme, une autorité, un leader politique, un président, un chef d'État, parler du planning familial, parler des femmes qui souffraient dans leur corps, qui souffraient de fatigue parce qu'on ne les aide pas à faire leur travail, et montrer qu'il était sensible à tout cela. Disons que les gens fléchissaient parce qu'ils se disaient, bon, si le président le dit, c'est vrai. Et comme en plus, il y avait les comités de défense de la Révolution, il y avait les animateurs, il y avait pas mal de monde qui reprenait, qui relayait ces mots d'ordre sur le terrain. Alors, ça donnait l'occasion à ceux qui ne comprenaient pas ou qui n'étaient pas d'accord de le dire, mais ça donnait aussi l'occasion à ceux qui voulaient en savoir davantage et participaient d'avoir accès aux moyens qu'on mettait en œuvre pour mettre en place ces mesures-là.
Si elle n'a jamais fait partie du cercle des théoriciens de la Révolution, Joséphine Ouédraogo croit à la nécessité de moderniser la société voltaïque. La sociologue revient avec émotion sur l'attention particulière que porte le camarade Sankara à celles et ceux qui n'ont jamais eu droit au chapitre.
Thomas Sankara était très sensible à la situation des personnes exclues. Il voulait qu'on comprenne que nous étions les premiers responsables de nos problèmes sociaux, des enfants, des gens qui finalement se retrouvaient SDF, des handicapés et même des femmes prostituées. Pour le président Sankara, les prostituées sont des victimes. Et il se disait, si on leur trouve du travail, elles vont lâcher. Mais en tant que sociologue aussi, je savais que malheureusement, ce n'est pas que le travail. Elles ne sont pas libres parfois. Il y a des proxénètes derrière, etc., etc. Mais il s'est quand même arrangé pour prendre une mesure pour montrer à tout le monde entier qu'il a du respect pour la femme prostituée. À l'occasion de la célébration du 4 août, je crois que c'est en 86, il m'a dit, Joséphine, j'ai 10 cartes d'invitation à la tribune pour 10 prostituées. Alors débrouille-toi, je veux 10 femmes prostituées, je veux qu'elles sachent que j'ai du respect pour elles et qu'il n'y a aucune raison que des diplomates, des personnalités s'assoient à cette tribune officielle alors que les mêmes vont peut-être la nuit ou les convoquent la nuit. Pourquoi des hommes qui vont vers les prostituées ont le droit de s'asseoir à cette tribune officielle et pas elles? Oh mon Dieu. C'était fort de vouloir combattre le mépris, l'hypocrisie. Il voulait restituer la dignité aux personnes exclues, aux personnes méprisées, aux personnes qui ne comptent pas. Ils voulaient réhabiliter leur dignité. Et elles étaient à la tribune officielle. Elles étaient là, à côté des dignitaires. C'était quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, la révolution a bousculé, a piétiné aussi des droits. Hein. La révolution a fait du mal à des personnes qui ont souffert en se disant pourquoi on me traite comme ça? Je pense aux instituteurs licenciés, je pense à d'autres personnes qui ont été dégagées. Il faut le reconnaître, souvent on n'a pas été très loin dans l'analyse de la raison pour laquelle on les dégage. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Je pense aux tribunaux populaires de la Révolution qui, sur le plan pédagogique, politique, étaient très forts parce que la population voyait que effectivement, des dirigeants doivent rendre des comptes, ne peuvent plus se permettre de voler, de détourner, etc. Mais d'un autre côté, c'était une immense humiliation pour des dirigeants qui ont travaillé honnêtement, qui n'ont pas nécessairement volé, mais qu'on a amené devant les tribunaux populaires pour marquer le coup.
Les professeurs Caran, les vomissures de la contre-révolution, à bas.
« La voix de Joséphine Ouédraogo sur RFI. Nous redécouvrons les discours révolutionnaires de Thomas Sankara à la lumière de ses proches, 30 ans après son assassinat.
Le peuple voltaïque accuse et exige la mise en application du verdict populaire. Aujourd'hui, pour la réalisation de ses aspirations profondes, exprimées depuis toujours, le peuple voltaïque s'est forgé un instrument adéquat. Les tribunaux populaires révolutionnaires. Nous avons fait un choix et désormais rien ne pourra empêcher le peuple de rendre son verdict. Rien. Désormais ne pourra empêcher le peuple de donner un châtiment exemplaire à toute cette racaille politique qui s'est nourrie de la famine, à toutes ces crapules qui l'ont toujours bafoué, humilié par mille et une vexations. Le peuple voltaïque accuse et le monde tremble. Le monde des exploiteurs, des spoliateurs, de tous ceux qui tirent avantage du système néocolonial tremble parce que le peuple voltaïque, devenu désormais maître de sa destinée, veut rendre sa justice.
La voix du capitaine Sankara dans la marche du monde. Thomas Sankara, leader charismatique d'une révolution pensée avec son fidèle ami d'enfance, l'intellectuel Valère Sommé. Lorsque les deux hommes se retrouvent au sein du CNR, le Conseil National de la Révolution, issu du coup d'État du 4 août 1983, c'est pour mettre en œuvre un changement radical de la société.
Ce qu'on a reproché à la révolution, c'est cette précipitation. De faire les choses vite. Je vais faire une confidence, c'était lié à la personnalité même de Thomas Sankara. Un jour, un de ses conseillers, qui était très âgé par rapport à notre génération, Feu Alba Diallo, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, qui a été ministre des Affaires étrangères, ensuite qui a été son conseiller. Donc, comme il était notre aîné en âge, un jour, face à face dans le bureau de Thomas Sankara, il dit, mais comment, président, je ne comprends pas. Vous faites les choses précipitamment. Vous faites les choses comme si vous avez le feu aux trousses. Et Thomas Sankara a posé son bic, l'a regardé en face. Il lui a dit, vous avez le temps. Moi, je n'ai pas le temps.
Thomas Sankara est un révolutionnaire lucide, mais en même temps, Thomas Sankara est un chrétien, selon Valère Sommé, théoricien de la révolution burkinabé, disparu en mai 2017.
Notre formation a été fondamentalement marquée par le catholicisme, le christianisme, et je reprochais justement à Thomas Sankara d'être rouge et noir à la fois. Le rouge, le révolutionnaire, et le noir, la soutane noire, donc notre formation, notre éducation chrétienne catholique. Nous servions la messe, Sankara et moi, avant d'aller à l'école. J'aime à dire la différence entre un révolutionnaire et un curé. Le curé, il fait son sermon dimanche devant ses fidèles, et puis les solutions, il renvoie ça au paradis. Mais un révolutionnaire, la parole est un acte. Quand tu dénonces un mal, il faut que tu aies le moyen de le résoudre. Or, tant qu'on n'a pas émancipé économiquement la femme, si la femme n'a pas les moyens de travailler, comment peut-on leur dire de ne pas se prostituer? Il y a ce qu'en philosophie on appelle des mots nécessaires. C'est-à-dire des mots qui minent la société. Mais il faut se donner les moyens économiques, les moyens d'abord avant de commencer à combattre ces mots. L'exploitation de l'homme par l'homme. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on la supprime. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'ouvriers, on a besoin que les ouvriers se fassent exploiter pour que le pays avance. C'est quand nous avons les moyens de créer les richesses nécessaires qu'on peut se dire qu'on peut supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme. Je compare ce phénomène à la prostitution des femmes. Je m'amusais donc à dire à Thomas, il est rouge et noir à la fois.
After they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. we forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous donnons la parole aux proches de Thomas Sankara afin de mieux comprendre sa rhétorique révolutionnaire. Après Valère Sommet, nous retrouvons son ancienne ministre de l'Essor familial, Joséphine Ouédraogo. Elle revient sur les influences de Sankara, inspirée par la lecture de Karl Marx, mais aussi par les écrits de Kwame Nkrumah ou de Che Guevara.
Thomas Sankara, c'est un homme très cultivé. Ça se sentait qu'il a beaucoup lu, qu'il a beaucoup réfléchi, qu'il a construit sa révolution et qu'il s'est inspiré de leaders comme Kwame Nkrumah, Fidel Castro, Che Guevara. Il a invité certaines personnalités, même des chanteurs comme Bob Marley. Sankara nourrissait sa philosophie, son idéologie par le souci de rendre internationale la lutte pour libérer les peuples, pour débâillonner les peuples, pour montrer au peuple burkinabé qu'il n'était pas seul à souffrir d'être opprimé. Il y avait d'autres peuples dans le monde qui vivaient les mêmes souffrances, les mêmes exclusions, ainsi de suite. C'est son discours à l'ONU, par exemple.
Je viens à cette 39e session vous parlez au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constitue la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commande des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main.
Thomas Sankara avait le sens de l'histoire parce qu'il voulait du changement. Et qui dit changement, regarde vers le futur. Il voulait amener le peuple burkinabé vers un certain niveau d'évolution qui pourrait servir également de repère au peuple des autres pays. Il voulait marquer l'histoire du Burkina et de l'Afrique.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Thank you.
le grand obstacle à l'inclusion des peuples dans la marche du monde, c'est une montagne difficile à franchir parce que les gouvernants, comme vous le savez aujourd'hui ou même depuis toujours, ils s'enferment pour prendre leurs décisions au niveau international et les peuples sont obligés de faire leur forum à côté. Et les gouvernants n'ont pas envie d'aller s'asseoir non plus dans les forums des peuples. Alors que ce qui se passait au Burkina, c'est que les paysans et les dirigeants, les ministres, les hauts commissaires, tous ceux qui conduisaient l'exécution de la révolution, il fallait qu'on se parle. Donc on ne demandait pas aux paysans de faire leur forum, on voulait être ensemble. Je crois que cet ensemble-là, il voulait montrer que c'est possible, en tout cas à l'échelle du Burkina, et que en fait c'est le futur pour sauver le monde.
Et c'est bien pour cette raison que Sankara convoque en permanence ce thème de la seconde indépendance, thème symbolisé par le changement de nom de son pays, la Haute-Volta, dénomination coloniale et française, transformée en Burkina Faso. Burkina, en langue nationale morée, veut dire intègre, et Faso, en langue nationale Dioula, signifie terre des pères, autrement dit, la mère patrie. Une réappropriation des valeurs africaines, également inspirée par le premier président du Conseil sénégalais, Mamadou Dia, dont Roland Collin a été un fidèle collaborateur.
Nous sommes en 1985 et je travaille avec Joséphine sur un projet qui serait à la fois un projet de formation, d'information. Et lorsque nous avons mis ce projet à peu près au point ensemble, Joséphine me dit « Bon, maintenant, il faut aller le présenter à Sankara. » Et Sankara nous reçoit dans son bureau en début d'après-midi. Il est 14h. Je suis un peu intimidé parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un acteur peu ordinaire de l'histoire en train de se faire. Il vient, il me serre la main chaleureusement et il me dit « Je sais qui vous êtes, je me suis renseigné, vous avez été directeur de cabinet de Mamadou Dia au Sénégal et vous avez eu la chance avec lui de vivre les moments fondamentaux du passage à l'indépendance. » Sankara me dit « Je sais que Mamadou Dia a été un pionnier de la participation populaire au développement. Je sais qu'il a mené toute une action, une stratégie qui partait des communautés de base. Et je sais aussi qu'il a payé très cher, parce que toutes les forces contraires se sont liguées contre lui. Et pourtant, il a fait des choses dont j'ai besoin de comprendre le sens et l'enseignement qui nous atteint jusqu'aujourd'hui. Mamadou Dia a été emprisonné, il a souffert, je sais. Vous, vous avez été témoin de tout ça. Et j'ai besoin, disons, de recueillir son enseignement et les idées que nous devons tirer de sa pratique. » Et là, il me rappelle son état d'esprit dans cette période-là. Et il me dit, vous savez, moi, je n'ai jamais été préparé à devenir chef d'État. J'ai tout à apprendre dans ce domaine-là. Et je me rends compte que les choses sont difficiles, mais en même temps, je ne veux surtout pas retomber dans les errements précédents.
Nous sommes en 1985. Roland Collin travaille sur des projets de développement ruraux avec Joséphine Ouédraogo. Lors de sa rencontre avec Sankara, il obtient de prendre en note leur discussion. Mais c'est Thomas Sankara qui interroge Roland Collin.
Alors là, on aborde des questions qui lui paraissent fondamentales. Il me dit comment Mamadou Dia s'y est-il pris pour rejoindre les communautés de base? Quelle transformation s'opérait dans les communautés de base, dans la politique, dans la stratégie de Mamadou Dia? Comment ces communautés de base-là permettaient-elles, disons, une prise en main populaire du pouvoir à la base? Étant entendu que, et ça, me dit-il, ça m'intéresse beaucoup, j'ai cru comprendre que Mamadou Dia portait une attention toute fondamentale à l'éducation du peuple. Mais non pas l'éducation par les voies scolaires habituelles, importées d'ailleurs de l'ex-métropole, mais une éducation qui sorte du vécu des paysans. Alors je lui réponds et je lui raconte à ce moment-là toute l'histoire de l'animation rurale, et je vois qu'il est très profondément touché par cette ligne de travail. Et il me dit, j'entends mener aussi, disons, le peuple dans cette voie-là, mais lui donner les moyens d'exercer les pouvoirs qu'il doit avoir, parce qu'effectivement, c'est ça l'enjeu fondamental.
Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloque, qui nous inspire, qui installe dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant, d'assister. Il y en a qui demandent, mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin.
Ce qui est intéressant pour la manière dont le président Sankara s'exprimait, en réalité, je ne l'ai jamais vu lire ses discours. Il parlait et il avait une logique extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faisait pas que des discours, il parlait avec les gens. Le président Sankara descendait dans la rue, allait dans les quartiers, dans les villages incognito, il échangeait. Et c'était quelqu'un qui parle moré. Il échangeait avec les gens, les paysans. Il discutait avec le peuple. Il organisait des conférences paysannes pendant lesquelles il invitait les paysans, les représentants des paysans de tout le Burkina Faso. C'était la première fois que je voyais que, enfin, on pensait à donner des écouteurs aux paysans et à mettre dans les cabines des interprètes djoulaphones, moréphones, gourmachéphones, fulfulde. Et les paysans pouvaient comprendre directement ce qu'ils disaient et pouvaient poser leurs questions dans leur langue et recevoir la réponse interprétée. Ils voulaient dialoguer avec les populations, les paysans, les femmes, etc. parce qu'ils leur donnaient toujours la primeur de ces décisions. Ils voulaient qu'on explique, chaque ministre reprenne ce qu'il a dit pour expliquer dans son domaine ce que cela signifiait. C'est ça ce qu'ils voulaient. Le peuple a droit à l'information, être informé, pouvoir poser des questions et participer, dire son avis, vous voyez, et se sentir co-responsable des changements qui s'opéraient. Ça, c'est Thomas Sankara. Et dans ses relations même avec nous autres, je sentais quelqu'un qui était très ouvert, sincère, et donc qui appelait à la réaction de son interlocuteur. Donc je me sentais libre de lui dire ce que je pensais de ses décisions. On pouvait dialoguer avec lui. Ça, c'est Thomas Sankara.
Thomas Sankara interpelle les paysans burkinabés comme il interpelle les chefs d'État africains au siège de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, lors de son Assemblée générale du 29 juillet 1987. 20 ans après Kwame Nkrumah, Thomas Sankara invite ses pairs à s'unir pour rompre avec le néocolonialisme incarné par la prédation économique exercée par le Nord sur le Sud.
Le président du CNR et du FASO aborde maintenant le problème de la dette des pays africains.
Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Nous souhaitons si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer.
Thomas Sankara était seul. C'était un dirigeant isolé en Afrique. Il était seul à mener ce combat, qui était quand même un combat violent, contre ses pairs, qu'il stigmatisait comme des complices de l'Occident, néocolonial. Donc, il n'avait pas de protection. On le tue et on continue. C'est-à-dire, les choses reprennent leur cours normal.
Isolé lorsqu'il provoque ses pairs devant l'OUA, isolé lorsqu'il provoque la France et François Mitterrand, isolé dès son arrivée au pouvoir en 1984 lorsqu'il prononce son discours légendaire à l'ONU.
Monsieur le Président, j'ai parcouru des milliers de kilomètres. Je suis venu ici pour demander à chacun de vous que nous puissions mettre ensemble nos efforts pour que cesse la morgue des gens qui n'ont pas raison, pour que s'efface le triste spectacle des enfants qui meurent de faim, pour que disparaisse l'ignorance, pour que triomphe la rébellion légitime des peuples, pour que se taise le bruit des armes et qu'enfin, avec une seule et même volonté, luttant pour la survie de l'humanité, nous parvenions à chanter en chœur avec le grand poète Novalis, je cite, « Bientôt, les astres reviendront visiter la terre d'où ils se sont éloignés pendant nos temps obscurs. Le soleil déposera son spectre sévère, reviendra étoilé parmi les étoiles. Toutes les races du monde se rassembleront à nouveau après une longue séparation. Les vieilles familles orphelines se retrouveront et chaque jour verra de nouvelles retrouvailles, de nouveaux embrassements, alors les habitants du temps jadis reviendront vers la terre. En chaque tombe se réveillera la cendre éteinte. Partout brûleront à nouveau les flammes de la vie. Les vieilles demeures seront rebâties, les temps anciens se renouvelleront et l'histoire sera le rêve d'un présent à l'étendue infinie. À bas la réaction internationale, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, à bas le fantochisme. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. Gloire éternelle au peuple qui décide de s'assumer pour leur dignité. Victoire éternelle au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui lutte. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.
Pourquoi Sankara a-t-il été tué? Malheureusement, lui-même prévoyait qu'il ne finirait pas forcément la révolution. Il a dit « Je ne voudrais pas être là après la révolution ». Parce qu'il ne pouvait plus imaginer le Burkina Faso autrement que révolutionnaire. Pour lui, c'était un chemin de non-retour. Il fallait que ça se passe. Il s'est investi pour ça. Il a tout donné pour cela. Il a même demandé des excuses en 1986. Il a dit « Je demande pardon pour les erreurs de la révolution, les comportements de certains CDR ». Mais ça veut dire qu'il avançait en se disant « Il n'y a pas de retour en arrière possible ».
Décidé à assumer ses fonctions du début jusqu'à la fin, Joséphine Ouédraogo est restée à son poste de ministre de l'essor familial et de la solidarité jusqu'au dernier jour, bien qu'elle n'ait jamais caché ses interrogations à l'égard des méthodes radicales du capitaine Sankara. Consciente de la violence de la lutte contre le pouvoir des riches, contre le pouvoir traditionnel des chefs et contre tout un système économique et financier pourri par la corruption, Joséphine Ouédraogo a compris que celles et ceux qui ont été déclassés ne le pardonnerait jamais à Thomas Sankara.
Tout le monde ne pouvait pas être d'accord avec le fait qu'un ministre roule en R5, que le président lui-même roule en 205 et qu'il n'ait pas une forte indemnité et qu'on ne doit pas mettre des climatiseurs toute l'année. Tout le monde ne pouvait pas être d'accord avec ça. Même le fait de voyager en classe économique pour tous les membres du gouvernement. Aucune autorité burkinabé ne devait voyager en business ou en première classe. Et donc, je pense qu'on l'a tué parce qu'il y avait des intérêts clairs qui étaient quand même bafoués et que des gens se sentaient bloqués, ne pouvaient plus faire ce qu'ils voulaient et que beaucoup, parmi la classe dirigeante qui était déchue, se sentait complètement humilié, en marge, et se disait « non, ce type-là, ça ne va pas du tout ». Et en Afrique comme en Occident, ça c'est clair. Donc Sankara est plus que jamais présent. Et encore plus, quand je dis Sankara, c'est-à-dire ses idées, son idéal, sa vision, les souvenirs qu'on a de lui, occupent la place. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu cette coalition pour créer un mémorial Thomas Sankara. Et là, c'est pour remplir vraiment le vide. Et c'est-à-dire que les autorités actuelles cautionnent officiellement, ouvertement, la création de ce mémorial, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train de réhabiliter ce personnage, pas seulement en tant que personne, avec tout ce qu'il représentait, tout son charisme, tout ce qu'il était, mais son œuvre, son action et sa vision. Si je peux me permettre de parler aussi librement et dire certaines choses sur Thomas Sankara et sur ce que je sais, c'est parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, Thomas Sankara n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il est vivant dans le cœur des gens. Les gens se souviennent et tiennent à se souvenir, tiennent à ce que la jeunesse burkinabè se rappelle, parce que ça fait partie de notre histoire, mais aussi de notre futur, c'est-à-dire les changements réclamés par l'insurrection populaire croisent les discours de Thomas Sankara et l'actuel régime écoute, entend, cautionne ce qui est en train de se faire pour réhabiliter les idées, pour les ramener sur la place publique. Bon, ça a confirmé que l'Afrique peut se ressaisir et l'Afrique peut comprendre, et il y a des expériences qui le montrent, nous pouvons prendre conscience de nos ressources, de nos capacités, et nous pouvons nous asseoir à la table des grands, non pas en quémandeur, mais en vrai partenaire. C'est ça que nous devons apprendre, et ce que j'ai appris, ce qui m'a fortifié à côté de Thomas Sankara. Oui, ça reste un idéal.
Thomas Sankara a été tué par des éléments de la sécurité présidentielle, dirigée à l'époque par Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, sans que leur responsabilité soit à ce jour prouvée. 30 ans plus tard, Thomas Sankara est réhabilité en son pays, le Burkina Faso, en héros national. La voix Sankara, c'était un épisode documentaire de La Marche du Monde, mis en onde par Elliot Bourrel. Tous nos remerciements à notre grand témoin, Joséphine Ouédraogo, aujourd'hui ambassadrice du Burkina Faso à Rome, où Anne Lenir a pu recueillir ses propos pour RFI. N'hésitez pas à réécouter cette émission sur RFI.fr. Vous pourrez également lire la grande enquête de notre rédaction Afrique, qui a fait tuer Sankara. Réagissez sur notre page Facebook, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.